Bonjour à toutes et à tous, c'est Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rhodes, toutes les deux semaines, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rhodes du souvenir français.
C'est bien ça.
Et pour ce 53e numéro, Vincent, il y a deux semaines, tu nous avais annoncé qu'on allait être dans le fait divers, hein, dans le crime, dans... Moi j'aime bien, donc je me souviens.
C'est pas très gay, c'est palpitant.
Alors, les crimes, c'est rarement marrant, hein, mais bon,
c'est ça.
Ça peut être intéressant. Alors, de quoi tu vas nous parler? Tu nous emmènes où et quand?
Alors, on va rester au début du XXe siècle.
Ouais.
Et nous restons en Aveyron. Nous ne quittons pas l'Aveyron.
D'accord.
Alors, le 9 février dernier, nous quittait un grand homme.
Ah bon?
Oui, il s'agit de Robert Badinter.
Ah bah bien sûr, excuse-moi. Oui, moi, oui. Je pensais Aveyronnais, moi j'étais en train de chercher.
Non, okay, pas Aveyronnais.
D'accord.
Mais tu verras, il y a un lien, enfin il y a un lien avec l'Aveyron, il y a un lien avec toute la France.
D'accord.
Qui a eu donc une extraordinaire carrière.
Ouais.
Parmi ses plus belles réalisations, il n'y a pas que celle-là, il y en a eu d'autres, nous lui devons l'abolition de la peine de mort qui a été promulguée le 9 octobre 1981.
Ah oui, mais je m'en souviens, j'étais petit, mais tu vois, j'ai quelques images en tête qu'on a revues ces derniers temps, mais moi je me rappelle.
C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est pourquoi j'ai choisi de vous parler dans cette chronique des deux dernières exécutions capitales qui ont eu lieu dans notre département.
Ah dingue, super, enfin super. Non,
ça dépend
pour qui. C'est pas ce que je veux dire.
D'accord, ok. Alors respectivement,
oui.
À 1910.
Oui.
Et à 1936.
D'accord, donc...
Il y en a 36, tu vois, il y en a qui a eu les congés payés,
ouais, bah,
et il y en a qui ont été raccourcis. Ouais.
Et alors attends, donc on est bien d'accord, Vincent, donc 1910 et 1936, c'est les deux derniers Aveyronnais exécutés, donc guillotinés en France.
Guillotinés, hein. C'est ça. Ouais.
Guillotinés en Aveyron.
C'est ça.
1910 et 1936.
C'est ça.
Bon, ça, c'était pas toutes les semaines non plus.
Non, mais enfin, on va voir, il y a eu beaucoup plus de condamnations à mort, mais peu d'exécutions.
Beaucoup de grâce.
Je vais l'expliquer.
Bon, alors on commence par qui? Par le premier, 1910?
Aucun, pour
aucun,
l'instant.
D'accord.
Je remets le contexte historique. Alors, l'historien Yves Carsenac, que je salue, s'il nous écoute.
Ah oh bah, il nous écoute.
Oui. Bonjour Yves. A dénombré 171 condamnés à mort par décapitation à la guillotine en Aveyron entre la mise en place des cours d'assises en 1811 et l'abolition de la peine de mort en 1981.
Donc en 100... Oui, en 180 ans. Bon,
Donc tu vois...
Un par an.
C'est ça, à peu près.
Okay.
À peu près.
T'as fait beaucoup. Oui, tout est relatif.
Oui, tout est relatif, je ne sais pas. Pour un petit département comme le nôtre, peut-être. Je ne sais pas. Le premier condamné à mort est Pierre Raffier.
Oui.
En 1811.
Qu'est-ce qu'il avait fait, le monsieur?
Alors lui, il a été condamné en 1811, il a été condamné à mort pour meurtre.
Ah, donc ok.
Ça me rappelle, tu sais, le Spoons, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Extraordinaire, ce film. Et le dernier n'est autre que Jean-Auguste Boudou, en 1956.
1956.
Ça te dit rien?
Si, on n'en avait pas parlé dans une précédente émission.
Alors, dans la chronique numéro 46, qui s'intitule « La Vallée Rouge et le tueur au bigos ».
C'est ça.
Seulement, je rappelle, 1956, et j'ai dit que le dernier exécuté, c'est 36. Je rappelle que Boudou n'a pas été exécuté car sa condamnation à mort a été commuée en prison à vie.
Ouais.
Voilà. Donc, tu vois, tous les condamnés à mort n'ont pas forcément été exécutés.
Ouais, d'autant plus que lui, je me souviens, son affaire était, bon, il était déclaré coupable, mais enfin bon...
Ouais, toi
t'as... J'avais quand même quelques doutes.
T'avais eu des doutes, t'avais eu des doutes.
Il y a un cold case par là-dessous, mais
c'est
bon,
ça.
Bref.
Alors, au cours du XXe siècle, 16 condamnations à mort sont prononcées en Aveyron, dont 6 par contumace.
C'est-à-dire que le mec n'était pas là?
C'est ça, c'est qu'il court toujours. Enfin, toujours, à mon avis, de plus courir maintenant, mais à ce moment-là, il courait. Sur les 10 condamnations à mort effectives, donc où les gens étaient présents, seulement 2, on l'a vu au début, ont été exécutés.
Ok, donc les deux dont on va parler dans cette émission.
Les deux dont on va parler dans cette émission. Car, en fait, deux peines de mort ont été commuées en travaux forcés à perpétuité.
Ce qui n'est pas marrant non plus. Enfin, bon, on garde ça à tête.
Et 6 ont reçu une grâce présidentielle. Mais enfin, grâce présidentielle, ça veut dire que ta peine est commuée en condamnation à la prison à perpétuité.
À perpétuité,
voilà.
Ouais,
donc, c'est pas...
Non, c'est pas non plus la joie.
C'est pas non plus la joie.
Ouais.
Surtout les prisons, je ne sais pas à quel moment, mais surtout les prisons à l'époque. Il n'y avait pas la Game Boy, il n'y avait pas Canal+.
Rien.
Et je ne sais plus quelle prison parisienne, il n'y avait pas les piscines. Alors le premier de ces deux exécutés se nomme Jean Théry.
Oui.
Surnommé, après son arrestation, surnommé le satyre.
Ah bah d'accord, oui, donc ça plante un peu le décor.
Non, ouais, ça va, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il avait fait, ça, le satyre?
Alors, je vais l'expliquer.
Ouais.
Il est né à Aurillac, dans le Cantal.
Ah, déjà, c'est pas un Aveyronnais.
Non, déjà, c'est pas un Aveyronnais.
Déjà,
c'est pour okay. ça, c'est okay. peut-être pour ça.
Voilà. Okay.
Il est né donc à Aurillac, dans le Cantal, le 19 novembre 1881.
Mm-hmm.
Âgé de 29 ans au moment des faits, il est employé dans les mines de charbon de Gages.
Ouais. Ah, pas, il y avait une mine de charbon à Gages.
Il y avait du charbon à Bertholène, il y avait
ouais.
du charbon à Gages.
Ah, je sais pas.
Il y avait du charbon apparemment vers la Loubière aussi.
D'accord.
Il y avait quelques petites.
Des petites mines de charbon.
Quelques petites mines de charbon. D'accord. Alors, apparemment, c'était pas un charbon, d'après ce que j'ai toujours entendu dire, c'était pas un charbon d'une extrême.
Bah, c'était pas
qualité.
Le top du top. Ouais.
Non, c'était pas d'Aucazeville.
Hein. D'accord.
Mais il y avait quand même des petites mines. Mmh. Et puis, même aussi des mines d'uranium. Mais Bertholène,
ah oui, ça, oui, ouais. même jusqu'à assez récemment.
Bon, jusqu'à assez récemment, ouais. Alors, le 18 avril 1910, Adrienne Ponce, mmh. une jeune fille de 16 ans, qui était élève à l'école normale de Rodez, entre chez elle
ouais.
par le train du soir avec une camarade.
Ouais.
Adrienne habite Pessens, sur la commune de La Loubière. D'ailleurs, j'en profite, je sais qu'elle nous écoute, pour passer un petit coucou à Magali Bessaou,
à la mère.
Maire de La Loubière
oui, oui, oui.
et conseillère départementale. Bonjour, bonjour Magali. Désolé de...
Bah, oui, là, pour le coup, c'est pas les meilleurs souvenirs à La Loubière.
Je précise aux gens, c'est la Loubière. Allez-y, à La Loubière.
C'est charmant.
C'est charmant, c'est voilà. une très belle commune.
Voilà.
Là, on est en 1910, donc de l'eau a coulé sur l'Aveyron, par l'Aveyron depuis ce moment-là. Donc, elle habite... chez ses parents. Donc, pour regagner la maison familiale, elle descend seule du train
ouais.
à la petite maison du garde-barrière de Canabols. Alors, elle est assez mignonne, cette petite maison de garde-barrière.
Mmh.
On la voit juste avant de prendre la ligne droite qui va vers Gages quand on vient de Rodez, sur la droite.
Bon, je ferai attention la prochaine fois.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Tu verras que c'est... Tu vois, il y a des petits lieux historiques comme ça qu'on voit et dont on ne se douterait pas.
Mmh.
Alors, sa camarade reste dans le train pour descendre un peu plus loin.
Et à l'époque, il y avait donc des trains.
Alors, à l'époque, il y avait des trains et puis il y avait beaucoup plus de lignes.
Eh oui.
Je rappelle, par exemple, que Espalion, ça fait des lustres et des lustres qu'il n'y a plus de train à Espalion.
Ouais.
Mais Espalion, il y avait une gare. On y allait en train. Il y a plein de petits réseaux comme ça, en fait, qui n'existent plus pour des problèmes d'économie.
J'imagine.
Voilà. Mm. D'après ce qui est dit.
Puis d'automobile. Les gens, maintenant, ils veulent rouler en voiture.
Aussi. Ouais. Ouais, aussi. Alors, Jean Théry, qu'il avait repéré en gare de Rodez, descend lui aussi du train à Canabols
ouais.
et la suit.
D'accord.
À 21h, inquiet de ne pas la voir rentrer à la maison, son père décide d'aller à sa recherche avec l'aide d'un voisin.
Ouais.
Ce n'est qu'à l'aube que son père découvre le corps sans vie de sa fille.
Ah, merde.
Dramatique.
Dans la nature ?
Quand ton père, dans la nature,
ouais.
Ouais, dans un coin boisé.
Ok.
L'adolescente avait été sauvagement violée et étranglée.
Ah, bah.
Jean Théry est très vite soupçonné, grâce au témoignage de l'ami d'Adrienne, qui avait pris le train avec elle, et avait vu également l'homme descendre.
Verpé, le gars qui était un peu
ouais.
louche.
Oh, okay. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça.
Okay.
Il devait déjà avoir des regards lubriques,
ouais.
comme on disait à l'époque. Jean Théry est condamné à mort par la cour d'assises de Rodez le 22 juin 1910. Il a fait un recours en grâce, hein, mais ce recours en grâce, on peut facilement s'en douter, il a été
écarté,
il a été rejeté.
Ouais, ouais.
Ouais. Alors voici un extrait de ce qu'a écrit un journaliste du journal Le Petit Parisien à son sujet la veille de son exécution. Alors, je cite « Jamais peut-être individu ne fit montre dans l'accomplissement d'un crime de plus de raffinement, de plus de cruauté froidement voulue, de plus de perversion que Jean Théry, l'assassin d'Adrienne Ponce. Il semble que toutes les traces, tous les vices que peut engendrer le cerveau d'un être primitif, élevé comme une bête à l'état sauvage, tu vois ça,
ouais.
il y va pas mollo le journaliste,
ouais, ouais.
se soit développé chez ce monstre de 27 ans. Alors 27 ans, on a vu qu'en fait
non,
il avait un peu plus. Des faits ont été recueillis au cours de l'instruction qui démontrent que chez Jean Théry, encore enfant, se manifestaient déjà les symptômes des instincts les plus vils et les plus bas. Parvenu à l'âge d'homme, vivant solitaire, du rude labeur des champs et de la mine, il glissa tout naturellement sur la pente fatale qui devait le conduire à la guillotine.
Et là, bah, c'est un journaliste qui vend son histoire.
Ah, c'est bien vendeur, lui, ouais. C'est sûr.
Parce que bon, après, voilà, la peine de mort, bon, alors, c'est horrible, il a tué une jeune fille de 16 ans, il l'a violée, laisse tomber, c'est voilà.
Ah, c'est horrible. C'est horrible.
Bien d'accord que c'est horrible. Ah, ouais. Mais bon, si on décidait d'une peine de mort à chaque fois qu'il y a une personne de tuer, même 1910, ouais, il y aurait eu des embouteillages, hein,
ouais, 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 autour de la guillotine. C'est clair. C'est clair, mais par contre, tu vois, il l'a raconté, on l'a vu quand on a eu tous les reportages, ouais, sur la vie de Badinter.
Oui.
Déjà à l'époque, c'était contre la vie de la population. S'il y avait eu un référendum de fait au niveau de la population, la peine de mort aurait continué à être en vigueur.
Ah bah
et
oui,
je crois, oui, que si on devait faire à nouveau un référendum, oh, ça serait
serré.
Ça serait serré.
Oui, c'est moi.
Ça serait vraiment serré.
Mais, ouais. Les gens ont tendance à vouloir zigouiller les autres facilement.
Ouais. Ah oui, oui, c'est clair.
Ouais.
C'est clair.
Ok.
La guillotine est dressée par Monsieur Anatole Debler, bourreau itinérant.
Ah oui.
Itinérant, en fait, il n'y avait pas de guillotine à Rodez, mais il y a un gars. Ouais. Donc c'était la profession,
ouais,
qui était entourée d'une petite équipe pour l'aider,
ouais,
qui allait de place en place.
Ouais.
Enfin, de commune en commune, hein, où on avait besoin d'exécuter, ouais, quelqu'un pour monter sa guillotine,
eh oui,
faire œuvre de bourreau,
eh,
et après démonter la guillotine pour pouvoir aller drôle de boulot.
Ah bah, bourreau, c'est très particulier.
Alors, bourreau, c'est particulier, même plus bourreau itinérant.
Itinérant, oui.
Tu vois, c'est quand même. Mais tu vois, à l'époque, on disait qu'il fallait pas serrer la main au bourreau. Enfin, il y avait plein de superstitions, plein de choses. Mmh. Ouais, c'était des gens qui étaient mis un peu au banc de la société. Mmh. Alors, cette guillotine est installée à l'extrémité du boulevard Galli. Derrière, ouais, le palais de justice, près de l'endroit où se trouve aujourd'hui le monument à François Fabier.
Oui, on voit très bien, tout à côté de la radio d'ailleurs.
Sur le petit parking, ouais, juste derrière la radio. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Au matin du 29 septembre...
À côté 1910, de la prison aussi d'ailleurs.
Ah mais pas loin, oui, ouais, vraiment tout près. Mmh. Vraiment tout près. Mais tu sais, le palais de justice en fait est vraiment à quelques pas, on va le voir juste après d'ailleurs, quelques pas de l'ancienne prison rue Combarelle.
Bah oui. Ouais, ouais.
Au matin du 29 septembre 1910, à Rodez, un fourgon cellulaire vient chercher Jean Terry à la prison qui n'est distante que de 200 mètres du lieu de l'exécution.
Et voilà.
Tu vois, mmh, comme on l'a dit, c'est vraiment tout près. Le condamné arrive sous une nuée d'injures et de coups de sifflet.
Mmh.
Il est décapité publiquement.
Et oui, oui.
Même
oui,
encore à l'époque, tu vois, les exécutions.
Ah, bah, fallait que ce soit public, fallait qu'on voit la personne. Ouais. Oui, oui, bien sûr.
Alors, il existe de nombreuses cartes postales, c'est assez amusant,
ouais,
bon, pas de l'exécution,
ah bon, quand même, oui,
qui étaient vendues en 1910, mmh, sur lesquelles on peut voir Jean Terry, soit il est seul, en général il est quand même menotté,
mmh,
ou menotté entre deux gendarmes.
D'accord.
Voilà, alors pour illustrer justement le podcast de cette chronique, j'ai fait un petit montage avec deux cartes postales, l'une sur l'autre, une carte postale en fond illustré, une carte postale humoristique,
ouais,
où on voit, enfin humoristique, c'est, voilà, l'homme s'amuse et se réjouit des fois de choses un peu curieuses,
ouais,
où on voit donc une exécution qui va se passer, et j'ai rajouté sur un côté de cette carte postale, une des fameuses cartes postales où on voit Jean Terry entouré avec les gendarmes, donc vous pourrez voir à quoi ressemblait Jean Terry. Alors, dernière exécution.
Ouais. Donc, 26 ans plus tard.
Voilà. Alors, dernière exécution dans notre département.
Ouais, ouais.
Alors, le dernier exécuté se nomme Henri-Joseph Bourdon. Je sais ce que tu vas me dire. Lui aussi, il n'est pas né en Aveyron. C'est pas l'Aveyronais.
Ah, ouais.
Il est né à Béziers.
Ah, oui,
tu vois, c'est comme l'autre, c'est pas loin. Hein.
Ouais.
Le 4 avril 1891.
Mmh.
Il a une enfance malheureuse. Abandonné à la naissance, il est recueilli par l'assistance publique. Il participe à la Grande Guerre. Mais malheureusement, il est fait prisonnier dès 1914 et reste en captivité en Allemagne jusqu'à la capitulation de 1918. Donc tu vois,
sur
la guerre, le gars qui a pas du bol, quoi. Abandonné à la naissance, assistance publique. À l'époque, c'était pas tendre.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et Grande Guerre, il survit, mais en passant toute la guerre en captivité en Allemagne. Alors en 1920, il se marie.
Ah.
Et un garçon naîtra de cette union.
Mmh.
En 1929, c'est là que
ça se gâte.
C'est là que ça commence. Il est condamné a passé 5 ans derrière les barreaux pour avoir violé une fillette de 7 ans.
Ah oui, alors ouais, là,
quand
oui,
même, ça commence, tu vois, ça commence mal.
D'accord, vieux.
À sa sortie de prison, alors il va pas faire les 5 ans, il va bien se comporter, d'accord. Il va être libéré un petit peu plus tôt. Mm-hmm. À sa sortie de prison, il est embauché dans le sud d'Aveyron comme domestique agricole à la ferme de Monsieur Fabre, au mas d'Allège, sur la commune de Tournemire.
D'accord.
Le 9 septembre 1934, le fermier lui donne congé.
Le vire.
Il le vire.
Ok.
Voilà, je sais, j'ai pas trouvé pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a pas de raison? Oui. En tout cas, il le vire. Juste avant de quitter la ferme, il croise Josette Fabre, la fille du fermier, qui garde seule les moutons. Là, il est fou de rage. Et il l'entraîne à l'écart, la viole et l'égorge avec un couteau.
Ah bah, elle a quel âge, la jeune fille?
J'ai pas trouvé.
D'accord.
J'ai pas trouvé. Son nom est apparu dans plein d'articles, plein de. J'ai pas trouvé son âge. Je sais pas si elle était jeune ou quoi.
Une jeune bergère.
On peut dire une jeune bergère. Mm-hmm. Ouais.
Mm-hmm. Donc il la viole, il la tue.
Il la viole, il l'égorge, ouais, carrément.
Ouais, d'accord, ouais. Oui. Ça va pas bien quand même, hein.
Faut vraiment être follement enragé. Bourdon part se cacher dans les bois. Il est arrêté 2 jours plus tard. Voilà, deux jours de fuite et on réussit quand même à le retrouver. Il est jugé et condamné à mort par la cour d'assises de l'Aveyron le 19 décembre 1935. Une demande de recours en grâce a été présentée au président Albert Lebrun, qui la rejette aussitôt. Ouais, en plus, bon, il y a quand même, la première fois, il avait pas tué, mais enfin, il y a quand même récidiviste, même ne serait-ce qu'au niveau du viol.
En plus, bon, en plus, le crime, il viole, après, il égorge.
Et puis, c'est vraiment sadique.
C'est pas du tout un accident, oui.
Alors, comme pour l'exécution de Jean Théry en 1910, le bourreau et le fameux bourreau itinérant dont on a parlé, Anatole Deblaire.
Ah, c'est le même?
C'est le même.
Ah ouais, dis donc, il y a une belle carrière.
Il y a une belle carrière, tu vois. Okay. Yo, Rodin, je connais, j'y étais en 1910. Il dresse la guillotine cette fois, impasse des Cordeliers, juste devant l'entrée de la prison.
Ah ouais, d'accord, ok. Bah, tout près de la radio, alors.
Oui, les Cordeliers, parce que je le rappelle, c'est un ancien couvent.
Oui.
Médiéval, le couvent des Cordeliers.
Tout à fait.
Donc là aussi, tu vois, vraiment pas loin de la prison. Jean Bourdon est exécuté, alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès, j'en sais rien, le 4 avril 1936, le jour même de ses 45 ans.
Non, je pense pas que c'était pour son...
Allez, joyeux anniversaire. Et je sais pas pourquoi, ça devait être public aussi, en général c'est public, surtout que là c'est pas dans la prison mais c'est devant. Par contre, il devait pas y avoir grand monde, puisqu'il a été exécuté à 5h du matin.
Ah, à l'aube.
Ouais.
Ah oui. Donc, les exécutions, parfois, c'est ça, c'est au petit matin, clac.
C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc voilà, pour nos deux condamnés à mort qui ont été exécutés, je le rappelle, puisque tous les condamnés à mort aveyronnais n'ont pas été exécutés.
Les deux derniers guillotinés
en Aveyron. Les deux derniers guillotinés en Aveyron.
En 1910 et 1936.
Une longue série, puisque je parle même pas de la guillotine. La guillotine, pendant la Révolution, était place du Bourg.
Ils en ont coupé beaucoup?
Il faudrait que je regarde, ouais, j'ai pas les chiffres. Je crois que c'est pas.
Non, ici en Aveyron,
ouais,
ça a été
assez calme. Et d'après ce que j'ai entendu dire, on prenait en fait des condamnés à mort qui avaient fait des trucs pas forcément dramatiques et qui n'étaient pas forcément d'anciens nobles. Ou...
D'accord.
Ben, tu vois, on devait.
C'était pour le champ, quoi.
C'est, voilà, presque. Pour donner le champ à Paris, pour dire, vous voyez, nous aussi on exécute.
On sait faire.
Ouais, c'est ça. Donc ils n'ont pas exécuté.
D'accord,
voilà,
il n'y a pas eu d'aristocrates en particulier.
Si, il y en a eu, mais pas autant que dans certains lieux.
Okay.
Alors si le sujet vous a intéressé, je vous conseille le très bon livre d'Yves Garrick, La peine de mort aux assises de l'Aveyron, 1811-1981. Publié en 2018 aux éditions Igornica.
Merci beaucoup Vincent pour cette nouvelle émission, 53e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, sur donc les derniers exécutés dans le département. Bon, c'était pas gay, mais moi j'aime bien ces histoires.
C'est croustillant. Ouais. Voilà. On a tendance à dire, tu sais, tout ce qui sent un peu le soufre, fait vendre. Il n'y a qu'à voir les journalistes à la télé.
Tu m'étonnes. Bon, on se retrouve dans 15 jours, dans 2 semaines pour un nouveau numéro, le 54e.
Oui.
T'as une idée? On va rester dans... On va partir sur des choses plus... La grande histoire, ou on va rester dans la petite histoire?
La grande histoire.
Ok.
La petite et la grande. En fait, je vais vous parler de l'histoire des haras de Rodez.
Ah ouais?
L'ombre de l'empereur, l'ombre de Napoléon plane sur ces haras, Parce que déjà, c'est lui qui a instauré les haras.
Napoléon Ier.
Napoléon Ier.
Ouais.
Et ensuite, nous avons reçu au haras de Rhodes deux chevaux officiels de l'empereur. Deux chevaux de Napoléon.
T'es sûr?
Oui, sûr. Il en a eu un paquet, il en a eu plus d'une centaine. Ouais, donc tu vois, deux sur une centaine. Mais deux chevaux impériaux de Napoléon au haras de Rhodes. Donc je vais vous parler de ça dans 15
jours. En peinture, des vrais chevaux.
Alors il y en a un des deux qui justement a été en peinture. Tu vois,
mais on les a eu
en vrai.
Bon, et écoute, vivement dans deux semaines.
Oui.
Merci Vincent.
Ben merci à toi, merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.